Bonjour et bienvenue sur I Am in Coaching, le podcast de l'auto-coaching dédié aux professionnels de l'accompagnement qui manquent de temps pour continuer leur propre développement personnel. Je suis Aude, coach de vie personnelle et professionnelle. Et à travers ce carnet de voyage intérieur, je te partagerai sur un format mini l'élixir de mes propres explorations pour t'aider à évoluer en même temps que tu sers l'évolution du monde. Hello, on se retrouve pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec Chloé, Chloé aussi appelée Quincy sur Instagram. Alors moi j'ai connu Chloé il y a quelques années puisque ça a été ma coach Insta, notamment sur les Reels, et puis ensuite on a cheminé ensemble et je suis devenue sa propre coach. Chloé, au-delà d'être une super businesswoman qui nous a fait des lancements de folie, c'est surtout une créatrice de contenu passionnée. Et c'est vraiment très intéressant de suivre toute la créativité qu'elle a au quotidien et sur tous les différents formats que nous proposent bien les réseaux sociaux et le web en général. Dans cette discussion avec Chloé, on est revenu sur nos débuts de l'entrepreneuriat, donc il y a 4 ans pour Chloé, il y a 3 ans pour moi, et on s'est posé mutuellement vraiment tel un échange très simple. On s'est posé ces questions, si on avait tout à recommencer aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on ferait de différent, de mieux, de plus, de moins, notamment puisque le contexte a changé. Chloé, elle s'est lancée en plein Covid, moi légèrement post-Covid, et finalement il y a pas mal de choses qui ont bougé autour de nous. Tu le sens peut-être toi dans ton business, tu le sens peut-être en observant le business des autres. Et on s'est dit que ça pouvait être une discussion très intéressante pour toi, toi soit qui démarre, pour avoir un petit peu peut-être des pistes pour te lancer aujourd'hui, ce qui serait finalement le plus opportun, ou toi qui cherches à consolider, à structurer ou juste un petit peu à upgrader ton business. Eh bien là aussi, il y a énormément de pépites pour toi puisque le monde du web, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. Et on te fait part des réflexions pour nous-mêmes, nos propres bises, où est-ce qu'on veut aller aujourd'hui. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir la conversation et je te souhaite une belle écoute. Coucou Chloé, comment vas-tu?
Hello, super bien, merci pour ton invitation. Et toi?
Merci d'être là, je te coupe la parole d'entrée. C'est mon podcast, c'est moi qui parle.
Je t'écoute.
Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis contente de te voir, oui, puisqu'on est en visio, et puis de t'avoir sur le podcast. Pour le petit contexte pour tout le monde qui écoutera l'épisode, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on se parle avec Chloé. On réalise qu'on aurait dû lancer l'enregistrement bien plus tôt parce qu'on parlait de plein de choses super sympas par rapport à l'évolution de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on peut ressentir chez les uns, chez les autres en ce moment, et puis ce qu'on vit comme transition, ou peut-être même des fois crise de sens ou autre, ou questionnement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on discutait de tout ça, et en fait on s'est dit, on va peut-être finir par enregistrer. donc nous voilà. et du coup, avec Chloé, on s'est dit qu'on allait aujourd'hui vous parler un petit peu de si on devait refaire un business aujourd'hui. Après, t'as combien d'années d'expérience, toi, dans l'entrepreneuriat, Chloé?
Moi, ça va faire 4 ans, je me suis lancée en 2020. Et voilà.
Eh bien, écoute, moi, j'ai commencé vraiment le côté indépendant en 2018 avec le studio de yoga, la Naturo, la Reflexo, et vraiment le business pur en ligne. 2020, je commençais à faire la transition, et 2021 à temps plein sur le coaching. Donc, si on fait temps plein sur le coaching, 2021, tu vois, ça va faire 3 ans en juillet.
Ça va faire, hein.
Ouais, et commence à être des petites mamies du web. Du coup, on s'est dit, voilà, après 3 et 4 ans d'expérience entrepreneuriale, si on devait relancer aujourd'hui, sachant que le contexte a complètement changé, qu'est-ce qu'on ferait de différent? Et déjà, quel serait, tiens, on va commencer par ça. Quel serait ton objectif, toi, Chloé, en termes de, déjà, spontanément, ce serait en termes de quoi? Et ce serait quoi ton objectif?
Ça serait vraiment d'avoir un business au service de ma vie et d'avoir du temps pour moi. Chose que j'ai complètement délaissée quand j'ai lancé mon business. C'était pas du tout ma priorité. En fait, j'avais pas pensé au fait d'avoir du temps pour moi. c'était pas un critère que j'avais pris en compte. Donc là, aujourd'hui, ça serait vraiment ça. Ça serait genre mon business doit s'incorporer dans ma vie et pas l'inverse, quoi.
Ah, j'aime beaucoup. T'es OK de nous partager ton objectif d'il y a 4 ans par rapport au business?
Ah bah complètement, mon objectif il y a 4 ans c'était déjà sortir de chez ma mère chez qui j'étais retournée, j'étais au chômage donc c'était déjà ça, réussir à me verser des sous et à pouvoir trouver un appart. Donc c'était déjà un truc de ouf. Ensuite, ça a été payer mon loyer, puis ensuite me verser un salaire. Mais si c'était à refaire, je pense que je ferais les choses différemment, je serais moins pressée et je penserais plus long terme. Parce que c'est vrai que pendant la pandémie, on était tous dans l'urgence, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et là, je me dis, avec le recul, je ne pensais pas assez long terme. Et toi?
Et ouais, j'allais dire, écoute, moi, aujourd'hui, si je devais tout recommencer, je pense que c'est la lignée de ce que j'ai là, c'est-à-dire comme toi. Hein. On se parlait, je donnais l'image tout à l'heure en off de, voilà, je sais pas moi, une tasse, parce qu'on est en train de boire le thé. Tasse de thé, c'est. Arrête de rigoler.
Comme des vieilles,
Comme
avec nos
des
plaids et
vieilles.
nos tasses.
Les mamies du web, on a vraiment le plaid en plus. Donc. T'as le contexte, c'est ton récipient, tu vois. Et genre, mon business, c'est le liquide, c'est mon thé dans le récipient. Et c'est de me dire, en fait, moi, ma priorité, je m'en cache pas, c'est mes enfants, c'est être. En fait, c'est pas que c'est toute ma vie, mes enfants, c'est juste que c'est important pour moi qu'ils aient une maman qui soit à l'écoute, qui soit dispo, qui les aide à se développer ailleurs qu'à l'école. Je trouve qu'on met un peu trop de pression et de responsabilité sur l'école. On a notre part à jouer en tant que parents. Et puis ma famille, mon mari, mais aussi comme on en parlait en off, le sport, prendre soin de moi, être bien dans ma tête, dans mon corps, tout ça, tout ça. Et du coup, ça c'est un peu mes non négociables. Et ça, avec le temps, c'est venu se réaffirmer. Tu vois, moi, quand je me suis lancée, je venais quand même du monde du yoga, donc c'est vrai que j'ai jamais envisagé le biz en mode je fais 70 heures par semaine, machin. Non, parce que je voulais faire du yoga pour moi, pour préparer mes cours. Tu vois, pour voilà, je voulais pas galérer comme j'avais pu le faire en tant que salarié pour aller au dernier cours à 21 h de yoga, de machin. Non, ça c'était non. Et donc du coup, c'est d'être toujours dans cette continuité-là. Donc j'ai mon contexte, c'est mes enfants, mon bien-être, voilà, tous ces trucs qui font que je suis bien. Si je suis bien, j'imagine que je peux inspirer d'autres personnes sur bien des plans. Et donc, ça, c'est ma tasse de thé. Et dans ma tasse de thé, il y a mon thé. Et mon thé, c'est mon business. Et en fait, c'est la contrainte que je crée pour que mon business, il soit efficient. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment le mot que j'utilise le plus. C'est faire les choses qui des résultats, mais en ayant fait les choses efficacement. Tu vois, c'est ça qui va m'importer. Donc, ça vient conditionner beaucoup, beaucoup de choix, c'est certain, parce que j'ai pas le droit de me disperser. J'ai pas le droit comment dire, d'être sur 15 000 projets, de faire des trucs qui servent à rien. Moi, c'est vraiment, je le dis toujours, c'est la massive action. Faut que ça crée des résultats. J'ai le droit de tester, mais voilà, c'est pas tester et pas regarder ce qui se passe derrière. C'est j'analyse ce que j'ai testé et je prends des décisions et rapidement, tu vois. Mais effectivement, ce serait comme toi ça, parce que peut-être qu'au début, vraiment quand j'ai été dans le full online avec le coaching, j'étais un petit peu plus dans allez, on va chercher les thunes.
Ça,
Apparemment, on peut se faire des
ouais.
thunes. Où est la lumière? J'ai vu de la lumière. Ok, j'arrive.
Ouais, c'est vrai. Et en plus, on n'avait aucun. Je trouve qu'on n'avait pas beaucoup de moyens de comparaison, de savoir comment se faire de la thune, combien on avait, il y avait moyen de gagner, qui on pouvait aider. Enfin, on n'avait pas beaucoup de données en soi. On était là, on avançait tous un petit peu, je trouve, à tâtons, en mode bon, bah voilà, on va voir si on va. Pour moi, je vois ça comme un peu comme une canne à pêche. On lançait, on attendait de voir si ça allait mordre, quoi. C'était un peu ça. Mais du coup, il y avait aussi l'attrait de la nouveauté, de vas-y, on va tester, on va expérimenter. J'ai l'impression qu'on s'autorisait beaucoup plus à explorer que maintenant, où tout le monde veut du parfait, une vidéo en 4K avec la dernière caméra, avec le dernier téléphone, avec le dernier machin. Alors que c'est vrai que je trouve que quand on s'est lancé tous sur les réseaux en digital, c'était plus chill, hein. Un peu comme les débuts de YouTube en vrai, où chacun devait avec une vieille webcam MSN et compagnie, et ça faisait très bien l'affaire. Donc ça, je trouve que ça facilitait le passage à l'action en vrai.
Est-ce que c'était pas ça la vraie vie en fait?
Et je pense qu'il faut vivre avec son temps, mais c'est vrai que maintenant, je vois beaucoup de gens qui se mettent la pression, qui veulent filmer du contenu en studio. Tu sais, absolument. J'ai des clientes, voilà, elles ont fait des podcasts, des vidéos, etc. en studio. Et du coup, maintenant, elles sont incapables de faire une vidéo à l'arrache, quand je dis, enfin, avec leur téléphone, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est vrai que c'est fou de voir comment les codes ont changé. Même une page de vente, maintenant, il faut qu'elle soit ultra léchée, enfin, un minimum, tu vois. Genre. Alors qu'avant, on était quand même sur un truc un peu plus rudimentaire, où tu pouvais envoyer un lien en DM et ça, tu passais pas pour quelqu'un de pas pro, tu vois. Donc c'est rigolo de voir comme maintenant. Après, c'est cool, hein, il y a plein d'outils qui nous facilitent la vie, d'automatisation. T'envoies un lien Calendly, ça sauve la vie à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est si rigolo de voir comment ça a évolué.
Mais ça, c'est intéressant, tu vois, ce que tu partages, parce que moi, quand il me vient, je pense, comme beaucoup de personnes, cette envie de parfaire les choses, je reviens à mon côté un peu. Comment décrire ça? Ouais, je sais pas si je dirais brouillon ou un peu claqué, peu importe. Mais tu vois, j'ai un vrai côté genre RAF. Et du coup, je suis la première à acheter sur une page de vente pétée ou un bon de commande. C'est pour ça que des fois, ça me prend et je le refais aussi. Je suis la première à consommer de la vidéo YouTube ou du podcast avec un son qui est pas ouf ou une image qui est pas ouf. Et dans ces cas-là, ça me rappelle enfin, ça m'aide de me rappeler qui je suis en tant que cliente. Et je me dis, oh, t'es quand même plutôt une cliente investie, impliquée et pas inintéressante pour tes coachs ou formateurs. Donc après tout, c'est certain qu'il y a d'autres personnes comme toi qui n'en ont rien à faire de la forme ou machin, mais qui sont hyper intéressants. Tu aurais tant à gagner à bosser avec eux. Et donc, juste rappelle-toi qu'il y a des gens comme toi qui sont là autour de toi et pense à eux quand tu fais tel ou tel truc, tu vois. Ton podcast, peu importe, à l'arrache, tu vois. Moi, à un moment donné, je le faisais pendant mes balades avec le petit parce que les siestes n'étaient pas calées. Ça m'aidait très bien. Là, c'est calé, donc j'ai plus trop besoin de le faire. Mais le son, des fois, c'était mortel, quoi. Mais pour autant, je me disais, ouais, mais moi aussi, j'ai écouté des grandes coachs, tu vois, genre du Brooke Castillo, qui marchait, en fait, au bord de la mer. Des fois, je me disais, oh, le son, il est relou, tu vois. Mais d'un côté, au bout d'un moment, je me disais, ouais, mais c'est tellement important, tellement intéressant ce qu'elle dit, je ne veux pas louper ça. Et tu sais quoi, t'as qu'à l'imaginer en train de marcher au bord de Santa Monica, ce qu'elle faisait, tu vois. Et je me disais, bah, en fait, j'en suis venue à attendre le podcast où elle allait marcher parce que je l'imaginais marcher le matin en train d'enregistrer son podcast face à l'océan comme ça. Et en fait, j'ai shifté moi mon mindset en tant qu'auditrice et je me dis, bah, en fait, les clients peut-être les plus intéressants pour toi, Aude, vu que tu fonctionnes comme ça, ils sauront faire ça. Donc, te prends pas la tête avec la forme, en fait. C'est juste une question de à qui tu penses quand tu fais les choses.
C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Et c'est intéressant ce que tu dis en termes de projection où c'est venu même créer une attente chez toi en mode j'ai envie de vivre cette expérience sonore.
Oui.
C'est ouf.
Mais tu sais, c'est comme on parlait en off par rapport à la maternité et trucs. Tu sais, c'est comme YouTube. Tu as des exemples de gens qui font toujours plus de montage, d'effets, de trucs. C'est waouh. En vérité, moi, j'avoue, je suis de la team. J'en ai vraiment, vraiment rien à secouer. Tu vois, je suis toujours plus attachée au fond qu'à la forme. Mais dans la vie, je suis aussi comme ça. Et j'aime beaucoup voir des gens qui sont plutôt tu vois, qui s'en sortent très bien dans le biz, qui font aussi des trucs très simples, à peine montés, juste un face cam, tu vois, ou un enregistrement d'écran, peu importe. Et heureusement qu'ils sont là. Oui, c'est des vidéos, il y a quelques vues, peut-être des fois c'est des centaines ou des fois c'est quelques milliers, mais en fait, juste, ça m'autorise à moi aussi envisager ça, tu vois. Et on se le dit aujourd'hui, d'un côté, on se met la pression à vouloir faire des trucs de ouf, et en même temps, on se reproche qu'il n'y a pas d'autre modèle. Eh ben, soyons le modèle. Voilà.
Exactement. Ouais. C'est plus dur hein, de créer ce qu'on aimerait consommer.
Oui?
Mais en soi, c'est comme ça qu'on inspire et aussi qu'on donne l'impulsion à toutes les personnes qui n'osent pas. Et ça, en fait, c'est un peu égoïste hein, de dire je vais pas faire, je vais attendre que ce soit parfait, je vais déléguer, je vais faire ci, je vais faire ça. Pour donner à voir cette image de nous que c'est parfait, alors qu'en fait, ça se trouve, on aurait 1000 fois plus d'impact en assumant faire un truc imparfait, mais qui est beaucoup plus, je sais pas comment on peut dire, relatable, et où on se dit, ouais, c'est bon, je peux m'en retourner dessus, elle incarne ce qu'elle raconte, et on va voir l'évolution aussi. Ça, c'est super cool aussi, je trouve, de voir l'évolution d'un créateur de contenu, d'un entrepreneur, te dire, ah bah, il est parti de là, et regarde tout le chemin parcouru, et il s'est pas arrêté. À cette qualité audio pourrie ou à ce commentaire pas ouf, voilà quoi. Et du coup, c'est vrai que ça
C'est
fait
ça.
relativiser.
Et tu sais, ça me fait penser à un truc. Hier, je lisais un post d'une copine, Vanessa, si tu nous entends, c'est de toi dont je parle. En fait, elle partageait un truc que j'ai adoré. C'était un carrousel où elle parlait de certaines situations et elle disait en gros, C'est un peu ce que tu vois, puis voilà ce qui se passe en fait un peu à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est con, ça peut paraître vraiment con, hein, mais ça m'a vraiment touchée. Elle disait, voilà, moi je fais du crossfit. Je le fais certes pour moi, pour être bien dans mon corps, je sais plus comment elle le disait, pour avoir un bon petit boule, bref, tout ça. Mais dans le fond, je le fais aussi beaucoup pour que mon mec soit fier de moi. Et en fait, j'ai trouvé ça trop mignon. Et il y a un truc, tu sais, n'importe qui pourrait se dire, ah bah ouais, bah c'est pas les vraies raisons, ah bah faut le faire pour ça. Mais non, mais en fait, en vérité, on l'a tous pensé à un moment donné, ce truc de le faire pour quelqu'un d'autre. Si c'est pas ton mec, c'est ta mère. Si c'est pas ta mère, c'est ton chien, peu importe, tu vois. Et on sait tous que des fois, on a cette part d'humanité qui fait que bah, c'est pas parfait. Il y a un truc qui est pas parfait chez nous. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont pas parfaits chez nous. Et tu sais quoi? Ce poste-là, eh ben, il a permis, je crois qu'elle a eu pas mal de commentaires. Pourquoi? Et dont moi, qui pourtant je suis pas la meuf qui interagit le plus sur les réseaux, mais en fait, elle a créé une connexion. C'est l'imperfection, c'est le côté humain de chacun qui crée des connexions. Et c'est pas vraiment là l'enjeu des réseaux sociaux, tu vois. Et en fait, plus on essaie d'être dans quelque chose de parfait, est-ce que c'est pas là où on crée de la distance avec les gens alors qu'on veut surfer sur l'algorithme pour créer l'engagement? Bah les gars, soyons imparfaits en fait. Hein. Tu vois, j'ai envie de te dire, faisons des stories en pyjama et on va en créer de la connexion.
Mais grave, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que j'avais vu dans le même registre une maman qui avait fait une vidéo, donc c'était une influenceuse hyper connue, machin, hyper sportive et tout. Et en fait, un jour, elle a fait une vidéo home tour sur Insta et genre, elle a montré les coulisses de son dressing. C'était le bordel, il y avait des jouets des enfants de partout, enfin, c'était vraiment cata. Elle dit, bah voilà, je vous montre la vraie vie quand j'ai pas le temps de faire le ménage, que mon fils il est dans le bain, etc. Et la vague de commentaires qu'elle a reçus en mode merci de montrer ça, merci de nous montrer que toi aussi tu galères et tout, bah, j'étais outrée de voir que les gens avaient juste besoin de voir qu'ils avaient le droit d'être bordéliques, tu vois. Genre, ah, c'est comme si on leur mettait une petite table sur l'épaule en mode ouais, t'as le droit d'être une maman débordée, t'as le droit de ne pas avoir plié ton linge aujourd'hui et c'est ok, tu vois. Et bien c'est bête, mais ça fait comme un peu, c'était comme un peu un câlin en mode t'inquiète, ça va aller, tu vois. C'est ce que les gens ressentaient dans les commentaires et je me suis dit waouh, comme tu dis, cette humanité, cette réalité aussi qui fait du bien, je pense.
Oui, surtout sur les réseaux où on a beau le savoir, mais on a cette tendance à montrer que ce dont on est fier ou ce qui est beau, ce qui est bien rangé, tu vois, ce qui ressemble à notre vie de rêve, tu vois. On n'est plus, moi je le vois, je suis la première, hein, c'est sûr, je vais pas mettre mon iPhone en route quand je suis en train de piquer une crise sur mon fils parce que ça fait 15 fois que je répète la même chose, tu vois. J'aimerais beaucoup pour le dire, bah, hey, les filles, je suis comme vous, moi aussi, j'ai beau essayer de tout bien faire pour mes enfants, et des fois, je suis cette mère hystérique, tu vois. Mais en vérité, je n'ai pas le temps de faire ça. Je suis en train de gérer la crise. Mais voilà, c'est vrai qu'un peu de réalité, ça, je pense que ça, on irait tous mieux aussi dans nos têtes, hein. Franchement, on n'en
Ben,
parle
je
pas assez,
pense.
mais.
Mais moi, je dis souvent que, enfin, tout le monde dit, ouais, Instagram, c'est la plateforme toxique, c'est la plateforme du fake. Moi, je pense que l'outil, il y est pour rien. Je pense que c'est ce que les gens ont fait, en fait. C'est ce que les
C'est
gens
clair.
décident de publier, c'est ce que les gens décident de montrer. Mais il y a des comptes, je sais pas toi, mais je pense qu'on a tous au moins deux, trois comptes hyper good vibes qu'on adore suivre, où on manque pas une seule story, on rate pas un seul message sur leur canal s'ils en ont un. Enfin, voilà. On suit leur actu, on est abonné à leur newsletter, on les suit sur YouTube, on les suit partout, on écoute leur podcast parce que justement, on kiffe trop et parce que peut-être que ce qu'ils nous montrent, bah, ça nous fait du bien. Et peut-être que parfois, ils nous montrent des choses imparfaites et c'est OK. Mais je trouve c'est dommage de dire, bah voilà, je remets tout en disant c'est la faute de l'outil. Alors qu'en fait, c'est surtout la faute des personnes qui utilisent l'outil.
Ouais,
Et je
puis
trouve. Que...
oui, j'allais te dire qu'il utilise et qu'il le consomme, c'est-à-dire
Oui, c'est vrai.
tu vois, qu'il la partie genre je reçois plus que ceux qui en font. Certes, ceux qui en font, bah nous les premières, des fois, on sans s'en rendre compte, on montre que le beau. Ok,
C'est
bon,
vrai.
quand on le sait, on peut aussi en changer, voilà. Mais au-delà de ça, c'est quel filtre tu as quand tu regardes ça. Tu vois, quand tu me parlais, je pensais à tu vas avoir des personnes, moi je suis pas mal tout ce qui est sport, nourriture, wellness, quoi. Et tu peux te dire en regardant ça, ah oh, bah elle est tous les jours à la salle, hein, ou elle mange super bien. Tu peux te dire, ah bah oui, mais elle n'a pas d'enfant, ou ah bah elle a le temps, ou ah bah oh, ça me fait culpabiliser. Bon bah, c'est une histoire que tu as choisi de te raconter. La meuf, elle fait juste sa vie, tu vois, concrètement, elle s'en fout de toi, elle fait juste sa vie. Et à côté de ça, tu peux te dire, moi perso, je suis de cette team-là, j'avoue, de ah ben elle est encore à la salle, super, Aude, va à ta séance de sport. Tu vois, c'est genre le rappel que tu avais besoin pour te bouger les fesses. Ah, toi, t'as ton croissant dans les mains? Regarde, elle s'est fait un bon petit plat. Et c'est pas le côté de genre moralisateur, machin. C'est juste, je vais kiffer mon croissant, mais je vais me rappeler que ce soir au dîner, je vais rééquilibrer en me faisant un bon petit Buddha bowl ou peu importe, tu vois. Parce que bah, ça m'a remotivée, tu vois. Et c'est juste que c'est le filtre avec lequel je consomme Insta. Hein, les gens qui mettent la faute sur l'outil, l'algorithme, c'est les mêmes. C'est ceux que tu vas retrouver toujours en mode victime dans la vie. Je vais être un peu cash, mais des gens qui se déresponsabilisent, tu le vois en tout. Moi, j'ai des exemples tous les jours. Et voilà, donc c'est des gens qui ont choisi de voir la vie avec un certain prisme. C'est OK, mais c'est pas la vérité absolue pour tout le monde, non?
Ouais, grave. Mais en plus, tu parles d'un certain prisme, mais je dirais même d'un certain filtre, hein, parce que même ça, hein, avant, il y avait une injonction d'utiliser les filtres, et tu te faisais engueuler quand on utilisait, et quand on n'utilise pas, on remarquait que tu as une sale tronche aujourd'hui. Et maintenant, on est en train de normaliser le fait que c'est OK de pas mettre de filtre, mais c'est marrant, tu vois, de voir comme quoi, des fois, entre guillemets, tu es puni pour ton authenticité. Parce que justement, tu corresponds pas au filtre que tout le monde a décidé de mettre. Et pourtant, quand tu mets le filtre, on te tape aussi sur les doigts. Et je trouve que c'est important de se rappeler aussi, de se dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai envie de moi de transmettre, en fait? Moi, j'ai envie d'incarner quoi? J'ai envie qu'on s'identifie à. Enfin, qu'est-ce qu'on kiffe chez moi? Parce que moi, tu vois, je me suis tombée dans ce piège-là, hein, de me dire, je dois forcément mettre des filtres pour être hyper. Je sais pas moi, être hyper vidéogénique, etc. Me dire, on va vouloir regarder ma vidéo jusqu'au bout. Et en fait, en déconstruisant le truc et en voyant plein de personnes s'autoriser à ne pas en mettre, je me suis dit, mais non, c'est pas moi le problème en fait. Mais le problème, c'était que j'étais persuadée, à force de voir des personnes en utiliser, que je devais en utiliser, tu vois. Et genre, ça, je pense que c'est, comme tu dis, notre responsabilité personnelle aussi de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de consommer ce contenu-là? Et même si elle met un filtre, est-ce que moi, je suis obligée d'en mettre un? Et si j'en mets un, est-ce que j'en mets un pour les bonnes raisons? Et enfin, tu vois, des trucs bêtes, mais. Je trouve qu'on se pose pas toutes ces questions-là. On est là, on consomme parfois bêtement. Et je trouve que moi, j'ai grave revu mon mode de consommation des réseaux, des plateformes. Je suis hyper intentionnelle maintenant dans ce que je consomme, dans ce que je like, dans ce que je commande, dans ce que j'enregistre, dans ce que je vais partager aussi aux personnes que j'apprécie. Enfin, tu vois, parce que je pense qu'il y a les réseaux, en vrai, si on les prend de manière intentionnelle, c'est hyper puissant. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si on se positionne du côté victime, bah, on se dit que ils ont tous des vidéos, ils sont tous à Dubaï, ils sont tous à Bali. Et toi, tu es là avec ton linge sale, ça peut être vite décourageant, oui, de se dire, voilà, tu vois les paillettes, etc. Mais c'est aussi toi qui choisis de voir ça et c'est toi qui choisis de te positionner en mode tu subis et ça peut pas être ta vie et ça peut pas être l'expérience que tu vas vivre derrière. Donc je trouve que c'est souvent les deux pôles, les deux extrêmes. C'est genre, faut soit forcément montrer que ta vie, elle est pas ouf pour soit te rassurer, soit rassurer les autres. Soit quand, bah, comme tu dis, on partage des succès ou des trucs hyper, hyper stylés. Bah vite, il peut y avoir cette culpabilité qui te rattrape en mode bon, bah, est-ce que j'en ai trop partagé? Est-ce que ça va inciter à la comparaison? Et de l'autre, est-ce que tu es responsable de comment les gens se. Enfin, de ce que les gens ressentent? Non. Donc en fait, je pense que ouais, les réseaux, c'est vraiment, en fait, c'est la vraie vie. C'est juste que c'est une grande cour de récré et il y a tous les profils, il y a toutes les personnalités. Et moi, quand je vois des gens qui disent que les réseaux les rendent malades, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas choisi de consommer le bon contenu aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plein d'analyses anthropologiques à faire. Parce que même moi, quand je me désabonne de certains comptes, ne serait-ce à quel point ça me fait du bien, je me dis, c'était quand même pas compliqué d'appuyer sur un bouton, quoi. Je veux dire, on a cette liberté-là. Donc, c'est pas comme quand tu croises le même collègue tous les jours au travail, là, tu peux vraiment supprimer les gens de ta vie.
Lui, il est toxique et lui, tu dois le voir tous les jours.
Ouais, tu vois, donc on a le choix. Et j'ai l'impression qu'on a oublié qu'on avait le choix. On a vraiment le choix.
Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est la base du mindset et de se dire, en fait, quand je suis actrice de ma vie, c'est que je comprends que j'ai le choix, en fait. Je peux
C'est ça,
choisir à tout moment.
exactement.
Donc, c'est
Exactement.
ça qui est puissant. Et donc, du coup, bah, là, tu nous disais, par exemple, si tu recommençais, peut-être tu utiliserais les filtres différemment, pourquoi pas. Et au-delà de ça, on a parlé de l'objectif. Par quoi tu commencerais, tiens, si tu recommençais aujourd'hui?
Je pense que je me fixerai pas forcément que sur le chiffre d'affaires, mais sur l'impact que je vais avoir. Et puis, je me cantonnerai pas qu'à une seule plateforme. Je pense que j'oserais beaucoup plus de choses. Alors, certes, se nicher, c'est bien. Mais en fait, je trouve qu'on est en train de voir les limites aussi de ça. Et je pense que j'aurais assumé beaucoup plus vite mon côté multipotentiel et multipassionné. Parce que moi, ça m'a beaucoup frustrée. Je pense que j'ai découvert un peu trop tard mon human design. Je me suis intéressée un petit peu trop tard à l'astro. Et alors que là, tu vois, ça m'aide énormément dans mon business. Donc, je pense que j'aurais essayé de. Enfin, si on peut jamais savoir, mais ouais, avec tout ce que je fais maintenant, c'est vrai que j'aurais plus pris en compte ce côté multipassionné pour pas me limiter, pour pas me sentir frustrée et me dire que même si je peux être experte dans une thématique, bah, ça ferme pas d'autres portes, en fait. Tu vois? Et je pense que pendant longtemps, j'avais cette croyance de OK, je suis experte là, là, là. Mais est-ce que ça m'autorise à ouvrir d'autres portes? Non, tu vois. Et j'étais convaincue que les autres portes étaient fermées alors qu'elles étaient toutes ouvertes. Mais c'est moi qui n'osais pas y aller, tu vois. Et on est vraiment des dizaines de business friends autour de moi, on en discute. Et ce côté multipassionné, multipotentiel, c'est très compliqué à aborder dans le business, que tout le monde te dit de te nicher, tout le monde te dit d'être un expert, tout le monde te dit de faire ci, ça, d'appliquer telle stratégie. Mais en fait, moi, j'ai vu les limites et je me suis dit, mince, je ne me serais peut-être pas cramée si j'avais peut-être dispersé mon énergie sur plusieurs projets qui me nourrissent, tu vois, au lieu d'y aller all-in sur un et que du coup tu te mets une pression de ouf et que du coup tu es tout le temps, entre guillemets, tu subis un peu les résultats parce que si ça, que tu fixes ta valeur en fonction de ces résultats puisque c'est le seul truc qui t'y a mis toute ton âme, tu vois. Donc moi, vraiment, le côté multipassionné, multipotentiel, je ne l'assumais pas du tout. Au début, j'étais en mode, mais c'est pas pour moi ça, mais de quoi vous me parlez, mais non, ça c'est pour les autres. Et en fait, tout comme le côté hypersensible, tout comme tout ça, et je me rends compte, c'est des trucs qui viennent te rattraper dans ton business. Et en vrai, t'as beau les fuir, ça te rattrape. Vraiment, le business, c'est, enfin, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'école de la vie. T'apprends tellement de choses sur toi, t'es obligé, en fait, à un moment donné, de t'y confronter, d'aller creuser, d'aller voir ce qui s'y cache derrière. Et tu vois, là, il m'aura fallu 4 ans pour vraiment même te le dire dans un podcast, l'assumer, et te dire, ouais, ok, c'est bon, j'accepte que maintenant, je crois que j'ai compris, en fait, comment je fonctionne et j'ai besoin. De mettre mon énergie sur divers projets et pas forcément pro, hein, tu vois, s'autoriser aussi à avoir des projets perso, ça c'était très compliqué, ouais. Donc moi j'étais vraiment en mode, il n'y a que le pro, il n'y a que, il faut que je fasse tant d'heures, et puis surtout quand tu parlais de ne pas reproduire, je pense que moi indirectement, j'ai reproduit aussi les codes du salariat, tu vois, genre plus tu travailles, plus tu auras des résultats, travailler plus pour gagner plus, voilà, tu vois, c'est un peu ce modèle-là où en mode tu es dans le hustle hard, tu es dans l'énergie masculine et du coup tu n'es pas du tout dans l'accueil, tu n'es pas du tout dans l'intuition. Et ça, pareil, c'est quelque chose, après, c'est dur de rééquilibrer, parce qu'après, quand tu découvres l'intuition, tu n'as plus trop envie d'être dans l'action. Et il faut réussir à balancer le yin et le yang, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est ça. En vrai, je pense que tout est lié, parce que si j'avais eu connaissance de tout ça, je pense que je me serais beaucoup moins cramée en termes d'énergie, en termes de santé mentale et physique, tu vois.
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup je pense que je vais pas mal je vais venir colorer ton avis, ton opinion parce que du coup moi je pense que j'ai fait en fait le chemin à l'inverse de toi, c'est-à-dire que je suis d'abord passée par la connaissance de soi puisque tu le sais et je t'ai accompagnée là-dessus avec le HD. Donc pour les personnes qui nous écoutent, Chloé elle est MG et était Verseau, donc voilà, ça explique l'envie de plein de choses. Et en fait, moi, je suis passée par le côté connaissance de soi, et puis que ce soit par le corps avec le yoga, la méditation ou la théorie, on va dire, avec le HD. Et du coup, je me suis aussi beaucoup écoutée, tu vois, sur les débuts de mon business, sur plein de choses. Et la réflexion, et c'est marrant, j'avais vraiment cette discussion avec mon mari hier, la réflexion que j'en ai, c'est que, certes, j'ai un beau business, tu vois, qui, sur 2 années consécutives, a fait des beaux chiffres. Et là, vu que je suis en congé, ça me permet de prendre aussi pas mal de recul sur mon business model. Et ce que je me rends compte, c'est que moi qui suis manifesteur et donc qui ai été vers plusieurs idées, qui ai lancé plus ou moins rapidement plusieurs idées et tout, et ben, je trouve que ça a quand même une forme de limite dans le sens où certes, il y a un beau chiffre, certes, il y a une certaine sécurité et tout, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est ma question du moment, est-ce que c'est vraiment durable, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment solide dans le fond, est-ce que je suis pas en train de marcher, tu vois, un peu sur du sable mouvant, dans le sens où finalement, est-ce qu'il y a une offre qui a vraiment fait ses preuves dans tout ça? Il y a plein d'offres qui fonctionnent, il y a plein d'offres qui ont fait du chiffre, et j'ai aucun souci, enfin, je sais que si je les relançais toutes, comme j'ai pu le faire pour certaines, elles marcheraient aussi, mais est-ce que, tu vois, moi, si je recommençais, et je pense que ce sera un peu peut-être comme ça que ça va être imprégné mes futurs mois, tu vois, dans mon business, c'est que je serais tentée d'aller à fond sur une offre, d'avoir toujours quand même, je peux pas m'en empêcher, j'aurais forcément une offre à côté. Tu vois, je pensais par exemple là hier en discutant avec mon mari. Alors attention, je ne Rien n'est figé, hein. Pour celles qui m'écoutent, ne vous emballez pas. J'ai le cœur non défini, je ne fais pas de promesses. Mais tu vois, ce qui me botterait bien là en te parlant à l'instant, c'est genre d'aller vraiment au bout d'une offre, d'aller bien pousser le truc. C'est pour ça que je suis en train de retravailler un peu une offre là, de bien faire le truc, d'aller la pousser au max. Et à côté de ça, pourquoi pas d'avoir la suite pour celles qui auraient bien avancé avec l'offre, parce que quand même le but, hein, c'est de créer des résultats pour nos clients. Pourquoi pas d'avoir un mastermind, tu vois, ou un truc, et du coup de jouer avec quand même deux offres, mais d'aller en tout cas, tu vois, je suis pas contre le multi-projet, au contraire, surtout quand c'est notre nature, mais j'irais un peu plus faire attention. Voilà, c'est peut-être ça ma leçon derrière, c'est plus faire attention à l'énergie que je mets dans chaque projet. J'ai eu tendance à la mettre de façon égale dans chaque projet et à valoriser chaque projet avec le même temps, le même effort, etc. Et je suis la première à l'enseigner et je crois que je te l'avais partagé quand on était en coaching. Si par exemple toi qui es MG, quand on est multi-projet, l'idée c'est toujours avoir quand même un gros bateau. Parce que c'est ça que tu vas pousser, qui va te faire avancer et qui va en fait probablement créer plus de résultats parce que c'est là où tu mets quand même le plus d'efforts et qui va le plus te satisfaire. Et du coup, pour toi, MG, tu as besoin d'être satisfaite et du coup, c'est ce moteur-là de la satisfaction qui va te permettre de l'injecter dans les autres projets parallèles. Et du coup, c'est peut-être ça la nuance. C'est en fait, oui, ok, la mono-offre, ça marche peut-être pas pour tout le monde. On peut avoir plusieurs offres, peut-être pas 15 non plus, hein, comme dirait un certain acteur dans des films. Pas 15, mais j'arrive quand même à sortir des références vraiment de pauvres, quoi, au milieu de mes épisodes de podcast. C'est une
Mais attends,
catastrophe.
c'est la culture
On
française.
est d'accord. Culture pop. Mais du coup, je pense que quand tu as, par exemple, admettons deux, trois offres, le vrai enjeu, c'est quand même toujours définir un gros bateau et de faire avancer ce gros bateau pour pouvoir alimenter le reste derrière d'une façon ou d'une autre. Certains, ce sera côté moyen financier pour alimenter l'autre projet. Peut-être d'autres, ce sera, en fait, ça me fait tellement kiffer que j'ai besoin, tu vois, de recharger un peu la batterie du kiff pour aller alimenter l'autre. D'autres, ce sera de l'énergie, bref. Mais voilà, tu vois, et moi j'ai vraiment eu des années où j'avais quasiment une nouvelle offre tous les mois. Et là, je trouve que c'est limite du multi-idée, tout ça. C'est que moi, en fait, je laissais trop d'argent, je vais parler franchement, j'ai laissé trop d'argent sur la table. J'ai fait des lancements qui me rapportaient 5K par-ci, 8K par-là, tout ça, très sympa. Hein. Mais quand je vois que quand je me suis mise à pousser les offres au bout d'un moment et qu'elles m'en rapportaient 50, je suis désolée, au bout d'un moment, au service de ma vie, on se rappelle, mon business c'est mon thé dans ma tasse de thé. L'idée c'est quand même d'en vivre et d'être sereine par rapport à cette activité qui représente au moins un tiers de ma vie, tu vois.
C'est intéressant parce que c'est vrai que là tu parles des offres et en vrai j'aurais peut-être pas dû parler des offres mais peut-être des archétypes entre guillemets parce que tu vois je me rends compte que en tout cas moi dans mon profil et ça tu vois j'en avais pas conscience là je te parle de ça mais c'est très récent hein, que tout le monde le voyait sauf moi comme d'hab que en fait j'avais aussi le pôle création de contenu moi tu vois et je me suis
Ouais.
grave enfermée dans le rôle entrepreneur. Et pareil, ça, tu vois, et j'ai un peu délaissé la créa de contenu pur, où t'as pas un objectif premier de monétiser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est trop cool si tu as un petit lien affilié, c'est génial si tu fais une petite vente, mais c'est pas ton objectif premier. Et je pense que du coup, vu que j'ai vu que j'étais capable de générer du chiffre, etc., je me suis grave bloquée dans l'archétype entrepreneuse. Voilà. En plus, on te valide, ton travail est reconnu, donc forcément, ça vient valider la croyance que c'est génial ce que tu fais et que tu es au bon endroit. Donc, la satisfaction était là. Mais tu vois, avec le recul, je me dis, en fait, il me manquait un autre pôle, une autre sphère où je pouvais m'épanouir et créer et me sentir valorisée aussi pour ça. Et du coup, là, je suis à un carrefour en mode, ouais, c'est cool, hein, j'étais une entrepreneur, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie que ça continue à me définir comme ça a pu me définir avant, tu vois? Plus trop. Maintenant, c'est plus le pôle créatrice que j'ai envie de développer. Mais j'ai pas envie de laisser tomber l'entrepreneuriat parce que je sais que c'est quelque chose qui est facile pour moi, c'est quelque chose où j'ai toujours envie de servir, j'ai toujours envie de transmettre. Mais tu vois, la question, c'est comment le faire? Et moi, ce qui m'inspirait beaucoup, on en avait parlé, c'était que justement, tu avais une note qui sortait du chapeau et tu t'osais la sortir. Combien de gens, dont moi, ont fait des listes sur Notion de toutes les heures, de toutes les idées qu'on a, et puis au final, on se dit, bon, je la sortirai quand je voudrais, puis au final, tu les sors pas forcément, alors que ça pourrait aider plein de gens. Et j'avais vu une citation sur Insta qui m'avait beaucoup marqué, qui disait le travail que tu procrastines fait souffrir les gens que tu veux servir. Parce qu'en gros, en ne le sortant pas, tu ne les aides pas, tu ne leur apportes pas de solution à leur problématique, et du coup, ils en souffrent. Et c'est un peu ça, tu vois. Donc, je pense que, ouais, certes, il y a le côté éparpillement, comme tu as dit, le côté, même en termes de résultats, où c'est assez irrégulier. Forcément, pour se projeter, c'est compliqué financièrement. Mais il y avait aussi ce côté, bah, vas-y, je me fais suffisamment confiance pour sortir mon idée de ma tête et l'explorer et lui laisser sa chance, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le faire. Donc, moi, je trouve que ça demande quand même du courage. Donc, moi, j'admire ça parce que ce côté exploration, ce côté création pure, c'est facile aussi de dire, bah voilà, j'ai une offre qui fonctionne et puis bah, je vais rester là-dessus, puis je vais la vendre pendant 10 ans. Ok, très bien, mais du coup, le challenge, ça va être peut-être alors de te réinventer dans la manière de la vendre et de la peaufiner. Mais l'idée de créer, je trouve, moi, j'aime bien l'idée de faire naître des trucs. T'en as quand même fait naître pas mal. Après, peut-être que voilà, tu t'es épuisé en route, mais je trouve ça beau de se dire, bah voilà, j'avais des projets et je les ai créés, et puis j'ai pas de regrets en ça parce que j'ai pu tester mon idée.
En fait, tu sais, c'est intéressant cette discussion. J'en ai jamais parlé, mais je pense que c'est un bon moment, tu vois, pour en parler. C'est que mon kiff, il a basculé d'une sphère à une autre. C'est-à-dire que, en bonne manifesteur, le côté manifesteur et le côté Lean 6 qui fait que je passe bien vite à l'action, tu vois, parce que j'ai besoin d'expérimenter, en fait, c'est plus fort que moi. Je sais pas si c'est une question d'audace ou, tu vois, j'aime bien souvent dire c'est un peu de l'insouciance aussi. En fait, je sais pas trop ce que je fais, mais j'y vais, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai toujours beaucoup de plaisir dans les débuts, hein, dans les lancements d'idées. J'ai une idée, comme je dis souvent, je peux vraiment avoir le squelette d'une nouvelle offre en 10-15 minutes sur papier, tu vois, et commencer à lancer le truc comme ça. Mais en fait, j'ai découvert que ce kiff, je pouvais l'amener aussi sur autre chose, qui est un autre kiff que j'ai depuis toute petite, c'est l'art de convaincre. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai fait une école de commerce, mais pendant mon école, à un moment donné, j'ai failli me spécialiser dans le droit des affaires, parce que j'aime beaucoup le droit et je voulais être avocate, tu vois. Et j'aime beaucoup cette idée de t'as envie, alors là, en l'occurrence, quand tu es dans le droit, c'est pour peut-être défendre ton client, ton machin, mais défendre ton point de vue, en fait. Et moi, alors, je sais pas si c'est mon conditionnement familial aussi, mais si tu avais une idée, il fallait la défendre, tu vois. Mon père, si je veux, ou un projet, papa, je veux aller au cinéma avec des copines, est-ce que c'est OK? Bah en fait ça dépend. Je te rappelle que tu as 15 ans, tu es une jeune fille, machin, tu vois, bon, bref, c'est peut-être aussi un peu une autre époque. Mon mari trouve toujours le moyen de passer pendant les épisodes. Ah, je t'ai dit, c'est nature peinture ces épisodes. Hein. Je
J'adore.
précise, il n'est pas tout nu. On ne sait jamais, hein. L'imagination dans les podcasts, ça peut aller loin. Et donc, du coup, pour revenir à ma petite histoire, c'est que tu vois, le moindre truc que je voulais dans la vie, il fallait que je le défende. Donc, je pense que ça m'a un peu alimenté là-dessus. Et c'est devenu une passion. C'est-à-dire que vraiment, j'aime beaucoup l'art de la persuasion. J'en parlais avec des clientes en coaching cette semaine. Persuader, c'est vraiment un kiff. Et c'est pour ça que pour moi, j'aime beaucoup vendre, tu vois. Et en fait, quand tu lances une offre une fois, ben, le kiff, il était dans la création et là dans la nouveauté. Et quand tu le relances, j'ai basculé dans le kiff de la psychologie humaine et de comprendre, en fait, attention, hein, c'est très loin de la manipulation, je voudrais pas qu'il y ait des raccourcis qui soient faits, mais de comprendre, en fait, là où est le prospect. Je sais que quand je mets une offre face à un prospect que j'ai en tête, c'est qu'elle va l'aider, elle va lui faire du bien. Mais par contre, c'est hyper intéressant de comprendre. Non, je suis désolée, mais là, mon mari, tu vas faire du bruit encore longtemps ou... Désolée pour... voilà, je ne couperai pas ça au montage parce que j'ai pas le temps. C'est horrible. Mais il n'y a plus qu'à y avoir une chute dans les escaliers pour un bruit encore plus
Va
fort
pas
et on y sera.
manifester.
Bref, et non, ça c'est mon troisième kiff, la chute des gens. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment vrai. Je suis connue dans ma famille pour être morte de rire quand les gens tombent. Il faut pas tomber devant moi. Bon, tu vois, là je me disperse. Tu vois, c'est ton énergie de MG qui m'influence. Tu arrêtes. Maintenant, c'est mon beau-fils. Voilà, je te présente mon beau-fils. Heureusement que le petit dernier ne marche pas, parce que sinon, il va avoir déchiré toute la famille. Et donc, du coup, tu vois, quand tu bascules à relancer une offre, tu es plus dans OK, où est mon prospect? Je le prends là où il est. Et comment je peux finalement travailler ma communication pour le convaincre que c'est un service qui est à sa disposition. Après, c'est toujours, moi, je dis toujours la vente, c'est tu aides ton prospect à prendre une décision. Oui, non. Il n'y a rien de pire que le laisser face à la confusion, mais au moins, il pourra trancher. Et du coup, c'est comment je peux lui présenter mon offre et les choses pour que, en fait, il puisse prendre cette décision. De changer sa vie sur une sphère ou une autre avec moi ou pas. Ou peut-être des fois c'est juste l'ouvrir sur la solution et finalement ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais c'est OK si à la fin la personne elle change sa vie in fine, tu vois. Il y en aura d'autres que je vais aider, donc c'est pas grave. Mais tu vois, ce kiff, il a basculé dans le côté communication que je n'avais pas en tête avant. Avant, pour moi, je balançais en story quelques jours l'offre, elle prenait. Et quand tu commences à vouloir relancer, ben, si tu ne sais pas le faire, si tu ne sais pas bien travailler ta communication, ben, ce qui a marché en côté nouveauté une fois, ne va pas
C'est
du tout
vrai,
marcher quand tu le fais la deuxième ou la cinquième fois. Et ça m'a vachement challengée au début. Au début, je relançais un truc, ça ne vendait pas parce que je ne savais pas le faire. Du coup, ben, je me suis. En fait, c'était. Toi, tu parles d'audace. En fait, c'était la facilité. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus facile de recréer une nouvelle offre parce qu'au moins, je savais que la nouveauté vendait, que d'aller vraiment faire les choses comme je les enseigne aujourd'hui, les fondamentaux du business, bien connaître son client idéal, bien saisir tout ça pour aller derrière travailler une offre, comme on dit, irrésistible, tu vois, avec toute la com et le marketing et la vente qui vont avec. Donc c'est pour ça, c'était intéressant. Excuse-moi, c'était un peu long, mais je vois que tu es en train de t'endormir, mais...
Pas du tout. Pourquoi tu me fais passer? Non, je t'écoute, c'est super intéressant. C'est vrai que du coup, quand toi tu. Enfin, c'est marrant quand on perçoit les autres. Hein. Tu vois, moi, je me dis que de l'extérieur, je me dis c'est audacieux. Oh là là, j'aimerais pouvoir oser sortir des offres sans trop me prendre la tête. Versus toi, tu m'expliques que c'est la facilité. Donc, comme quoi, à chaque fois, du point de vue où on se trouve, la perspective est différente. Donc, du coup, non, c'est super intéressant, je trouve.
Carrément, carrément. C'est vrai. Là aussi, c'est un choix de voir les gens d'une façon, alors que voilà, en fait, on sait pas comment ils sont, on ne sait pas si c'est vraiment comme ça. Ou, enfin, bref, c'est un peu creux ce que je viens de dire là. Mais... la fatigue. C'est vraiment. À chaque fois qu'on fait un podcast, toi et moi, c'est n'importe quoi. Tu es dissipée.
Ouais, c'est vendredi, hein, c'est vendredi après, moi aussi, hein,
C'est
voilà, faut
clair.
pas trop en demander non plus, hein.
Note à moi-même, ne plus. En plus, j'ai passé mon temps à faire des interviews le vendredi. C'est vrai qu'il y a toujours un moment un peu de fou rire. Allez, on se fait une dernière question sur
Yes.
si on se le faisait, enfin si on redémarrait aujourd'hui. Tiens, toi, t'as pas une question qui t'inspire parce que tu vois, du coup, j'en ai pas. Donc, je te refile la patate chaude.
Est-ce que tu recommencerais à te mettre sur Instagram en premier ou tu miserais sur une autre plateforme? Est-ce que tu
J'adore
lancerais
cette
ton
question.
podcast ou YouTube ou la newsletter en premier?
Alors, ah, c'est super intéressant parce que spontanément, vu qu'on en a parlé toutes les deux, on pense à YouTube. On est au stade de la pensée. Avec Chloé, il faut savoir qu'on fait les projets en même temps, on a fait le podcast en même temps. Après, ça devient un peu un challenge et on se booste toutes les deux. Donc là, maintenant, c'est YouTube. Donc on verra. Hein. Peut-être ce sera dans un mois, peut-être ce sera dans un an. Mais toujours est-il qu'on en a parlé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le chemin que j'ai fait et surtout le chemin intérieur en termes de mindset, je commencerai par YouTube. Parce que j'ai vachement travaillé ma peur du rejet, mon image, le fait de faire plutôt que parfaire, tous ces trucs-là. Donc, je serais capable de vraiment me dire, allez, je me donne un délai et dans tant de temps, je vais sur YouTube, tu vois. Pourquoi? Pas parce que YouTube, moteur de recherche. Parce que YouTube, tu vois, là, moi, je suis en congé mat. Je travaille pas vraiment, on va dire, depuis plusieurs mois. Mon contenu travaillerait pour moi. Là, Insta, je le vois très clairement. J'ai pas de souci à le dire. Je perds des abonnés tous les jours. Tous les jours aussi parce que je ne communique pas, mais parce que je préfère m'occuper de mon bébé que de communiquer sur Insta, j'avoue, et de me dire dans 24 heures, c'est aux oubliettes, tu vois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce recul-là, je me dirais YouTube. Maintenant, j'ai pas du tout le même mindset. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mon point, c'est absolument pas de dire aux gens, allez sur YouTube ou allez sur un contenu natif, podcast ou peu importe, parce qu'en fait, faut faire ce qui nous semble challengeant, mais accessible quand même. Et clairement, il y a 3 ans, mais déjà, je consommais pas YouTube, pas autant que maintenant, on va dire. Et il y a 3 ans, mais ça a été impossible. Jamais de la vie, tu me mettais, moi, sur YouTube, sachant que n'importe qui peut voir ma tête et tout. Oh là là, ça a été trop, trop, trop de challenge pour moi, trop de sorties de zone de confort, tu vois. Donc, je te retourne la question.
Intéressant. Ben, alors moi, du coup, je pense que j'aurais pas supprimé la chaîne YouTube parce que j'en avais lancé une en 2016. J'avais un blog qui commençait à être bien référencé. Et je me dis que la pire erreur que j'ai faite, c'est de le supprimer et de l'arrêter parce que du coup, fin d'études, rentrer dans le salariat, etc., tu connais. Et je me dis qu'en fait, j'aurais dû le garder parce que je sais pas si t'as lu aussi qu'il y a un outil qui revient en puissance, c'est Pinterest.
Ouais.
Et mes articles, ils étaient très bien référencés. Je commençais à avoir un petit nom dans le domaine du blogging. Et je pouvais faire des liens avec mes vidéos YouTube. Et mes vidéos YouTube, à l'époque, c'était un truc de ouf de voir que mes abonnés, mes 1000 abonnés, regardaient mes vidéos sur leur télé. Tu vois, enfin, c'était un truc de dingue. Et je me dis, en vrai, j'aurais pu grave. Enfin, elles étaient pas du tout ouf, mes vidéos. Hein. J'avais tellement honte que j'étais supprimée. Mais je me dis, avec le recul, tu vois, peut-être que là, j'aurais gagné tellement de skills. Oh là là, mais peut-être que j'aurais là une chaîne qui me rapporte des revenus passifs. Peut-être que, enfin, tu vois, j'aurais peut-être eu d'autres opportunités. Je me serais grave chauffée en montage vidéo beaucoup plus tôt. Donc voilà, mais je me dis, bon, c'était le destin, ça va se passer comme ça. Donc du coup, j'ai un peu moins peur, j'ai un peu moins de friction quant à me mettre, remettre sur YouTube en termes d'image, etc. Maintenant, c'est juste qu'il y a un peu les croyances qui viennent, genre, est-ce que je suis pas trop vieille pour ces conneries? Est-ce que
C'est marrant
je
ça.
vais tenir le rythme? Parce que je me dis que bah, c'est vrai que toutes les personnes qui ont réussi, entre grosses guillemets, bah, se sont lancées plus jeunes. En tout cas, moi, j'ai grandi avec... Les youtubeurs, etc., je les vois évoluer et je me dis non pas que je vis d'être Squeezie ou Léna, mais de me dire ah ouais, tu sais, cette sensation d'avoir perdu du temps alors que j'avais déjà cette appétence, tu vois. Et je pense que je me suis pas autorisée à l'époque parce que c'était encore un truc où peur du jugement, les autres te disent que c'est pas un vrai métier, etc. Et du coup, je pense qu'indirectement, je me suis cachée derrière le job CM, social media, etc., en mode ah, je vais quand même avoir un pied dedans, mais je vais pas forcément être devant la caméra. Et c'est vrai que je pense que je me suis autorisée ça avec les Reels, avec Insta. Et là, ça, tu vois, c'est comme ça revient me chercher, mais d'une autre manière. Et ce qui est rigolo, c'est que mes premières vidéos, elles faisaient 30 minutes où je parlais de dev perso face caméra, tu vois. Et j'étais beaucoup plus jeune et je me dis, enfin, tu vois, full circle again. Donc, je pense que ça, et ouais, j'aurais gardé mon blog parce que tu vois, le blog, on n'en parle pas. Mais le site
Et
internet
ouais.
et les blogs, ça revient de ouf. Hein. Moi, j'entends plein d'Américaines qui disent qu'elles font des revenus juste grâce à leur site internet parce qu'il est très bien référencé depuis des années, connecté à YouTube. Enfin voilà, tout est interconnecté. Et c'est là que je me dis, quoi, il y a vraiment, elles ont vraiment fait un travail d'écosystème en termes de présence, alors que moi, je ne pensais pas à tout ça. Tu vois. Enfin, moi, je me suis lancée sur Insta, je n'avais pas de newsletter. Le podcast, pareil, on s'est vite rendu compte qu'on ne pensait pas forcément 100% business, 100% stratégique, qu'on était un peu irrégulière, qu'on postait un peu comme on voulait. Enfin voilà. Et même là, tu vois, tu le disais, le podcast, je me rends compte à quel point il est bien référencé aussi, à quel point les écoutes continuent d'augmenter, peu importe si tu es, justement, tu parles d'une grossesse, mais ça peut être maladie, ça peut être voyage, ça peut être vacances, ce que tu veux. Et c'est vrai que le podcast, ça nous a donné, je pense, un aperçu de ce contenu qui se consomme sans qu'on soit là. Et là, YouTube, c'est vrai qu'on revient, j'ai l'impression que c'est cyclique, hein, tu vois, parce qu'il y a vraiment des phases où, moi, il y avait la période du blogging, c'était à fond, mais après, ça a complètement décliné. YouTube, on s'en est grave éloigné parce que le format long, ça saoulait tout le monde. Et puis là, on revient, on est fatigué de scroller. On veut revenir à un contenu plus long qui va nous demander de se poser, où on n'a pas vraiment une guerre d'attention, on doit scroller toutes les 5 minutes. Donc j'ai vraiment l'impression que là, c'est en train de nous épuiser un peu le format trop court, trop rapide, trop intense, versus on revient à quelque chose de plus calme, de plus deep. On revient vraiment à apprendre des choses, on revient pour se poser vraiment dans un contenu en mode moment chill avec, je sais pas moi, ton petit popcorn et ton petit thé, tu vois. Et je trouve que c'est rigolo de voir à quel point c'est cyclique. Donc je pense pas qu'il faut se dire, il y a une plateforme, faut l'acheter et puis l'autre, elle est meilleure. Enfin, comme
Ouais.
tu disais par rapport à YouTube, non, c'est pas YouTube, c'est le Saint Graal. Je pense que ça a toujours été génial. Et je pense par contre, c'est vrai que YouTube, le truc qu'on ne dit pas, et avec beaucoup de recul, je me rends compte que c'est quand même la plateforme qui a le plus fait ses preuves au cours des années. C'est-à-dire
C'est
qu'elle
clair.
nous a montré en termes de monétisation, en termes de revenus passifs, en termes de plein de choses, en termes d'opportunités, de sponsors. C'est quand même un système qui est bien huilé, alors que Insta ne rémunère toujours pas ses créateurs, en tout cas francophones, ou encore très peu. C'est développé aux États-Unis, mais c'est bof. TikTok, un mois sur deux, ils veulent le supprimer. Enfin, tu vois. Du coup, les autres plateformes, elles n'ont pas du tout encore fait leurs preuves, même si elles sont là depuis très longtemps. Je trouve, quand toi, tu veux t'inscrire dans un truc long terme, c'est vrai que site internet, blog, YouTube, ça reste quand même les fondamentaux quand tu regardes. Après, ça peut disparaître demain, hein, mais je trouve que c'est vrai que c'est vraiment ceux qui ont résisté dans le long terme. Et quand tu regardes en termes de référencement, bah, ils battent tous les records.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et le podcast aussi, tu vois, moi j'écoute des podcasts depuis 2013. C'est pareil, c'est une plateforme, enfin c'est, tu vois, un canal que j'aurais exploité beaucoup plus vite parce que pour le coup, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça. Je suis pas tout le temps régulière, mais c'est un format qui me plaît beaucoup et qui me permet, tu vois, t'as dit le mot deep, clairement c'est ça. C'est-à-dire que moi c'est ça que je sature un peu des réseaux sociaux en général, pardon. C'est plus profond. J'ai même vu l'autre fois passer un reel qui disait voilà, ça va pas plaire, mais je vais le dire. C'est genre aujourd'hui, ce qui marche, c'est la quantité plutôt que la qualité. Et c'est vrai, hein, je suis d'accord. On en est à devoir parfois publier jusqu'à 2 fois par jour. On voit, il y a des stratégies comme ça. Mais en fait, moi, je ne serais pas la consommatrice de la quantité, tu vois. Je ne serais pas la meuf qui va consommer du contenu dégueulasse et aller chercher la quantité de quelqu'un que j'aime bien. Donc, du coup, ça ne me parle pas, ça. Et attention, hein, j'essaye. Parce que moi, je suis la team test, tu vois. Même ce qui ne me parle pas et tout. Pour avoir un avis, je trouve, il faut essayer de faire les choses. Donc, mais du coup, j'aime apprendre ou être inspiré ou être boosté ou avoir un shift, tu vois. Et le truc genre où tu sens que ça a été posté pour poster, j'avoue que moi ça me nourrit pas. Et c'est pour ça que ben je suis toujours, ça n'a pas changé depuis quelque temps, sur du podcast ou sur du YouTube un petit peu plus maintenant, mais parce que je cherche voilà, de la profondeur. Je cherche ouais, c'est ça, c'est de la profondeur.
Après, je pense que le mix des deux, en vrai, est très bien, parce que je sais aussi, des fois, je vais me connecter intentionnellement pour être divertie, pour être inspirée. Tu vois, je cherche beaucoup d'inspi sur TikTok, soit pour plein de trucs, soit pour le ménage, etc. Enfin, moi, les vidéos TikTok ménage, c'est mon grand kiff, tu vois. Et
J'avoue.
je pensais pas que j'étais un public pour ça, jusqu'à ce que l'algorithme me le mette sous les yeux. Je me disais, ah ouais, en fait, il y a un besoin, il y a un réel besoin. Donc, je pense qu'il y a un mix des deux à avoir, tu vois, parce que le format court, il permet aussi de couper le cerveau, des fois, de se détendre. Parfois, tu apprends des trucs hyper random en mode what the fuck, j'étais pas au courant que ça existait. Mais je pense que ouais, là, on est en train de trouver, j'ai l'impression, hein, qu'on trouve le sweet spot entre OK, l'hyper consommation de
C'est ça.
contenu versus vas-y, je consomme consciemment et un peu de chaque. Tu vois, je fais mon petit mélange, ma petite recette et ça me va bien. Je pense qu'on est en train de trouver ce sweet spot. Mais en attendant, il y a eu l'émergence, par exemple, des contenus. Là, franchement, je peux plus me le voir. J'ai trouvé la solution, nanana. Si tu veux savoir, lis la description. Enfin, tu vois,
Que
c'est
j'ai
pas
fait.
très. Non, mais c'est bien. Moi aussi, j'ai testé, mais une fois, deux fois, quoi. Pas 10 fois par
Oui,
jour.
c'est ça, c'est ça.
Quand tout le monde le fait 15 fois par jour et que t'as que ça dans l'algorithme, c'est insupportable. Genre, c'est plus possible. Et là, on voit bien que même ce format-là traduit du manque de. Les gens ont la flemme, en fait. Ils n'ont plus envie de se casser la tête, ils n'ont plus envie de réfléchir. Maintenant, il y a des IA qui peuvent faire des vidéos à ta place. Enfin, je pense que là, le marché est en train d'évoluer. Même nous, on n'est pas prêts, je pense, pour ce qui va arriver. Mais je trouve en termes de consommatrice de contenu, outre le fait que tu dois créer du contenu bah, pour ton entreprise, après c'est même pas forcément le cas, il y a plein d'autres business models qui n'impliquent pas de créer du contenu, mais je trouve que c'est important de se dire, OK, je vais me créer un écosystème qui me convient avec des formats que j'apprécie créer. Enfin, là, il y a plein de gens qui se forcent à rester, par exemple, sur Instagram alors qu'ils en ont marre. Va ailleurs, il y a plein de gens qui se forcent à envoyer des mails alors que ça les gonfle. Tu peux faire autre chose. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'il ne faut pas non plus se forcer aussi à nourrir des formats qui ne nous font pas kiffer.
C'est clair. Mais tu vois, tu parlais de ça, des formats, là. C'est vrai, tu vois, aujourd'hui, moi, ce qui m'appelle, alors, je me mets toujours vraiment en mode en ce moment, hein, on ne sait pas ce qui sera demain. Mais j'adore la newsletter parce que j'ai toujours aimé lire et écrire, donc ça me parle. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis sur quelque chose de quotidien qui est en test. Et comme tu dis, Ben, moi, je renoue avec le présentiel. Donc là, pour la première fois, je disais, je crois d'ailleurs un jour dans une newsletter, je rejoins un réseau de femmes entrepreneuses, tu vois. Déjà pour sortir de ma zone de confort, parce que mine de rien, j'ai pas l'air, mais je peux être une grande timide. Ensuite, pour sortir de chez moi et pour aussi, comment dire, connecter avec d'autres industries, tu vois. Pas que des coachs ou des infopreneurs ou ces trucs-là. Et puis, accessoirement, manger de la bonne bouffe et aller dans des beaux endroits et mettre des petites robes de cocktail.
Ça, c'est important.
Ouais, sortir un peu de juste les outfits de maman, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est ça qui m'appelle et c'est vrai qu'Insta est pas forcément trop dans cette stratégie-là, sauf les stories. Je suis une grande consommatrice de stories et j'aime produire des stories. Voilà comment j'utilise Insta aujourd'hui. Et comme toi, et c'est marrant que tu aies parlé de cet exemple, alors toi tu en parlais pour TikTok, mais j'ai trouvé ça aussi sur Insta. Comme toi, j'aime bien les petits reels de rangement ou en fait de trucs un peu de toqué, tu vois. Genre tu apprends effectivement. On n'a pas tous rêvé un jour d'avoir genre la cuisine super bien rangée. Moi, je suis vachement sur les jeux d'enfants, tu vois, quand je vois leur chambre. Des fois, j'ai juste envie d'acheter 15 000 boîtes chez Ikea ou des petites pochettes zippées pour tout bien ranger, machin. Mais je sais que de toute façon, il va me retourner la baraque dans 1 heure. Donc, je ne le fais pas. Mais c'est très inspirant de regarder ce genre de vidéos. Et puis, ça fait du bien, c'est genre même mentalement, ça fait du bien, comme une méditation, de voir quelqu'un qui
Exactement.
range. Il y a un truc genre vraiment méditatif. Et donc voilà, tu vois, pour répondre à la question, comme toi, réenvisagerais aussi un peu plus le présentiel. Bon, on s'est lancé dans une période Covid, post-Covid, voilà, on a beaucoup misé sur le en ligne. Aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de faire les deux. C'est pas du tout une injonction, hein, mais moi, ce qui m'a aidé, et là aussi, on n'en parle pas assez, c'est que d'être que en ligne, tu me diras si ça te parle. Mais toi, t'as jamais été trop déconnante dans les prix, donc je pense que là-dessus, t'as toujours gardé les pieds sur terre. Moi, de faire que du en ligne, je trouve que des fois, ça m'a déconnecter un peu de la vraie vie. Je me suis fait la réflexion il y a quelques mois de, tu vois, genre si je rencontrais quelqu'un que je connais pas dans un café et qui, voilà, qui d'une façon ou d'une autre en écoutant mes services aurait envie de travailler avec moi, je me sentirais pas à l'aise de parler franchement de mes services comme je peux le faire en ligne, de parler de certains tarifs comme j'ai pu pratiquer ou autre, parce que j'étais très à l'aise en ligne, mais j'étais déconnectée de la vraie vie et de la cible aussi que je voulais aider. Et tu vois, je trouve que remettre un pied dans le présentiel, connecter avec des vrais gens, parler business avec des vrais gens, voilà, la vraie vie, quoi. Le réseau, tout ça, aussi de faire jouer le bouche à oreille, faire jouer juste l'entraide parce que tu es dans le même cercle que ci, que ça. Eh ben, ça m'appelle aussi beaucoup plus aujourd'hui et ça me permet d'être encore plus fière de ce que je crée parce que il n'y a plus de déconnexion, voilà, de décrochage entre un monde fictif et un peu un vrai monde, tu vois. Donc je pense que
Ouais.
je ferais ça aussi de différent aujourd'hui.
Trop intéressant. Ouais, je pense qu'il y avait vraiment une bulle, notamment dans le domaine du coaching. Même moi, avec le recul, je me dis que j'ai vraiment payé des coachs des sommes astronomiques et pour pas de résultats en plus. Donc, ouais, je pense qu'on était complètement déconnectés des réalités. Même quand tu fais des gros chiffres, hein, tu te rends pas compte, c'est pas palpable. Hein. Tu te dis, ah, bah voilà, ça tombe, mais c'est pas palpable. Donc, je te rejoins là-dessus. Par contre, bah, je mettrais juste une précision sur ce que tu dis parce que le présentiel, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que ça m'a aussi rassurée de voir que je pouvais ramener les gens du digital en ligne en me lançant le challenge du présentiel. Donc pour toutes les personnes, bah peut-être que ça appelle, qui se posent des questions, c'est totalement possible et je trouve que ça vient rappeler à quel point aussi toute cette audience que tu as mis du temps à bâtir, cette connexion que tu as créée, elle peut continuer dans la vraie vie en fait, et être renforcée,
Oui.
être encore plus puissante. Et du coup, enfin, moi j'ai fait des rencontres vraiment de dingue grâce à Instagram, mais qui sont devenues des rencontres réelles, palpables, avec des vrais échanges, avec des émotions, avec des regards, avec des larmes, avec des hugs et tout, enfin, tu vois, et tu te dis, waouh, ça revient redonner du sens aussi à tout ce que tu crées en ligne, je trouve, parce que comme tu dis, on peut très vite être déconnecté de la réalité, déconnecté, parfois on croit qu'on connaît nos clients, mais on les croit pas, on les connaît pas forcément, on connaît pas leur réalité, et comme tu dis aussi, venir connecter avec des personnes de domaines totalement différents, qui ont des réalités totalement différentes, et se poser la question de se dire, ah bah toi, si tu vis ça en ce moment, bah moi je me sens moins seule. Et tout de suite, bah, y a un petit poids qui s'enlève quand même de tes épaules et tu rentres chez toi derrière ton ordi et tu es bien contente d'avoir eu cette discussion ou ce café ou d'avoir mangé un super croissant en bonne compagnie, tu vois. Donc ouais, je pense que ça, par contre, aussi, les gens ne se rendent pas compte à quel point Ce n'est pas deux mondes séparés pour moi. Ce n'est
Oui,
pas
c'est
genre il n'y a
ça.
que le présentiel. Est-ce qu'il y a tous les gens qui ont des business physiques qui vont dire mais qu'est-ce que je m'en fous d'aller automatiser mon business, etc., de me digitaliser? Et tu as les autres qui sont en mode oui, mais vu la pandémie, maintenant, il faut faire que du digital. Et en fait, moi, je pense que bah, c'est un peu comme je disais pour les réseaux, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et je pense que c'est là où tu t'épanouis sur les deux et ça vient redonner du sens et remplir la balance des deux côtés, tu vois. Ah bah tiens, mes offres digitales me permettent d'aller. Peut-être, je sais pas, moi, ramener du monde en physique. Je sais pas si demain tu décides de recréer un studio yoga ou j'en sais rien, un studio bien-être. Bah, toute ton
Carrément.
audience, ce que tu auras créé en ligne, toutes tes capacités marketing digital bah, vont te servir pour venir, par exemple, nourrir ce business-là. Et à l'inverse, c'est peut-être que toutes celles qui vont te découvrir en physique vont vouloir être suivies sur les réseaux. Et en fait, je trouve que là, il y a une grosse montée du présentiel, puisqu'on a toute marre aussi de se sentir isolé et complètement déconnecté parfois de nous-mêmes, hein, parce qu'on n'a pas de feedback aussi sur notre taf. On a des feedbacks de nos clientes, mais des fois, c'est intéressant aussi d'avoir des points de vue différents, des perspectives, brainstormer et tout. Et ça, c'est vrai qu'on s'est vachement déconnecté en mode chacun dans sa bulle, chacun fait son petit taf derrière son ordi. Et des fois, ça te permet vraiment de voir autre chose et d'avoir la big picture en mode ah ouais, non, mais ça, j'avais pas du tout pensé. C'est comme ça que tu vois les choses. Ah, mais quand je fais cette story, c'est ça que tu perçois. Ah, ok, c'est super intéressant. La personne, elle te voit en vrai, elle te dit mais c'est ouf parce que t'es pareil dans la vraie vie. Tu te dis ah, putain, ouais, j'ai bien taffé, j'ai pas joué de personnage, donc c'est cool, on peut connecter, ça fait des vraies connexions. Et c'est pour ça, en plus, là, bah, c'est pour ça que pour moi, c'est encore plus important d'être vrai sur les réseaux parce que si tu as envie après de connecter et de créer des vraies connexions. Dans la vraie vie, tu as tout intérêt à être toi-même dès le départ.
C'est clair. Sinon, le moment où tu rencontres ton public en vrai, c'est un délire, quoi. D'ailleurs, ils ne te reconnaissent pas, en fait. Ils vont dans la salle à côté. Mais tu vois, t'en parlais, mais c'est vrai que tu vois, quand j'avais mon studio de yoga ou même mon cabinet naturo, j'exploitais pas du tout le en ligne. Et aujourd'hui, bah, tu vois, si on mettait cette question-là sur cet ancien business, je ferais carrément différemment là-dessus aussi. Là, pour le coup, j'exploiterais beaucoup en complément de ce que j'avais en présentiel, soit pour effectivement amener des clientes dans les lieux physiques, soit pour proposer des offres complémentaires à mes clientes qui étaient déjà en physique. Tu vois, je pense à le yoga, il y avait des cours hebdo, etc. On pouvait très bien, combien de fois, moi, je leur parlais de naturopathie ou autre. Bon, la plupart, elles voulaient pas, enfin, pas la plupart, mais. Tout le monde ne voulait pas forcément derrière aller suite à un atelier détox, yoga, torsion et naturopathie, aller en présentiel au cabinet avec moi. Mais pour autant, j'aurais pu aller créer un programme en ligne spécifique sur, je sais pas moi, l'hygiène de vie du yogi ou peu importe, tu vois.
Oui, ouais,
Et
grave.
aller compléter un atelier ou un enseignement de la semaine via une offre en ligne. En toute autonomie, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a plein, plein de trucs à faire. Et comme tu dis là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment toujours voir les choses en complément, mettre un et à la place des ou.
C'est ça.
Et c'est là où, d'ailleurs, ben, je pense que c'est cette idée de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de créer des choses solides, durables, qui, voilà, qui seront toujours là, même quand notre contexte de vie change ou que notre motivation baisse, notre énergie, voilà, ou qu'on tombe malade ou peu importe, tu vois, on ne sait jamais de quoi est fait la vie. Et plus on vient créer des ancres un peu solides à droite à gauche, plus on sécurise notre business. Ce n'est pas qu'une question de chiffre d'affaires, vraiment pas.
Exactement. C'est aussi une question de, je trouve, de sérénité, de se dire aussi qu'on a la possibilité, parce qu'on a un petit peu nourri, entre guillemets, plusieurs pots de fleurs, qu'on peut décider d'en faire grandir un peu plus que les autres, mais ça va pas impacter, tu vois. Et moi, franchement, quand je regarde avec beaucoup de recul, je me dis, en fait, on avait les réponses dès le début, tout était cyclique, mais on a suivi, entre guillemets, les tendances, bon, ce qui est OK, hein, moi, la première. Et là, avec beaucoup de recul, je me dis, punaise, en fait, tout était sous mes yeux depuis le départ. J'avais les compétences depuis le départ pour, par exemple, continuer mon blog, continuer YouTube, faire Insta, faire TikTok, faire machin, faire le podcast. Tu vois, par exemple, nous, on a procrastiné de ouf le podcast, on s'en faisait toute une montagne. Et maintenant, regarde, t'es là, t'enregistres en mode chill, tu t'en tapes et tu te rends compte que tu t'en étais fait tout un fromage alors que t'es juste là pour partager, pour transmettre et que l'aspect technique, on s'en fout un peu, tu vois. Et du coup, c'est ouf parce qu'il y a plein de gens peut-être qui nous écoutent, qui se bloquent. Enfin, moi, je le vois pour le podcast, il y a des gens qui vivent la même chose qu'on a vécu constamment, ils s'en font un truc de ouf. Et là, bah, nous, du coup, le next step, c'est YouTube, en mode on repart de zéro, en mode bah, allez, rebelote, débutante, allez, rebelote, sortie de zone de confort, c'est inconfortable, machin, il va falloir que je me remette, que je mette le setup, que je sache exactement ce que je vais raconter. Et puis, je suis sûre qu'on va faire 3 vidéos, on va dire, bon, bah, finalement, c'était pas si méchant, allez, c'est quoi le prochain challenge?
C'est clair. La prochaine fois sera la conférence TEDx.
Mais tu vois, même ça, les événements, enfin, en vrai, je m'en faisais, j'étais un peu en panique de faire mes premiers événements, puis t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois, après t'es invité. Ben, c'est pas que c'est devenu genre méga facile, mais c'est devenu hyper confortable par rapport au départ, tu vois. Et du coup, là, je suis en mode, ok, bon, je voulais me prouver que je pouvais le faire, maintenant, c'est quoi le next step? Parce que ben, j'ai toujours ce jeu, ce challenge, je pense que toi, t'es pareil, t'aimes bien voir plus en termes de capacité, en termes de potentiel, en termes de voir de ce qui peut t'épanouir aussi. Parce que sinon, un peu, on s'endort si on fait, entre guillemets, tout le temps la même chose de la même façon, avec les mêmes objectifs. Et je me dis, en fait, la résultante, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression qu'on se limite tous beaucoup parce qu'on est pollué par X ou Y ou parce qu'on est persuadé que c'est pas fait pour nous, que ce sera trop compliqué, trop machin, trop ceci, trop cela. Alors qu'avec le recul, je me dis, enfin, même là, quand moi je dézoome, je me dis, mais en fait, il y avait tout qui était là depuis le début, quoi. C'est moi qui refusais de... C'est moi qui refusais de le voir parce que je vois que tu valides.
Non, c'est
Et
pas
c'est
pour
ça,
toi,
tu vois.
c'est aussi pour moi, tu vois, c'est de l'auto-jugement.
Ah non, mais là, c'est une autothérapie aussi hein, quand je te balance ça, mais même en t'écoutant. Mais je me dis, c'est vrai que on a tendance à tellement intellectualiser le truc et le compliquer, alors qu'en soi. Enfin, moi, je vois bien toutes les personnes qui réussissent, c'est les personnes que j'aime suivre particulièrement. Ok, ils postent en termes de quantité, la qualité est aussi là, mais c'est surtout que ça a du sens en fait ce qu'ils font. C'est pour ça que je dis que demain, si tu te lances sur YouTube, faut quand même que ça a du sens pour toi. Si demain, les personnes qui nous écoutent, pareil, veulent relancer un blog, machin, parce qu'on a parlé de SEO, il faut que ça ait du sens. Mais je crois qu'en fait, c'est en créant cet écosystème que le sens va prendre forme. En fait, tu vois, le puzzle, il prend forme. Et ça, je le voyais pas, je le captais pas avant. J'étais trop en mode ultra zoom macro sur un seul truc. Pareil pour les offres, pareil pour ma vision du business, enfin, tu vois. J'ai l'impression que c'était hyper manichéen, il n'y avait pas de souplesse, il y avait, tu vois, c'est soit noir ou blanc, il n'y avait jamais de nuance. Et j'ai l'impression qu'on est en train de réapprendre ça dans tous les domaines. Hein. Le coaching, il en prend une sacrée couche en ce moment, il y a beaucoup de changements au niveau des coachs, il y a vraiment un turnover, enfin, il y a plein de, même la formation en ligne, il y a plein de choses qui bougent. Et je me dis, d'un côté, c'est pas plus mal, parce que j'ai l'impression qu'on va retrouver un peu cet équilibre en mode, allez, c'est bon, on a vu les erreurs, on a vu les limites, on a vu les extrêmes. Tu parlais tout à l'heure des chiffres parfois un peu lunaires que certains coachs pouvaient proposer, machin. Là, on est en train de, je pense, se reconnecter un peu, de s'ancrer, et c'est plutôt cool. Et de se dire aussi que c'est possible pour nous. Moi, je pense que c'est ça, en vrai, le plus dur, c'est se dire, pourquoi pas moi, tu vois. Moi, c'est vraiment un truc que j'essaie de muscler en mode, mais pourquoi pas moi? Genre,
C'est clair.
je suis pas plus con qu'une autre pour y arriver, quoi.
Je suis d'accord. Et par rapport au sens que tu disais, c'est aussi se rappeler que, en fait, même si on peut avoir l'impression de papillonner, même si on peut avoir l'impression d'avoir 15 000 idées, ce qu'on oublie, c'est qu'on va chercher le fond des choses. Il y a toujours un fil rouge, c'est juste qu'il est caché. Mais c'est
Exactement.
pas vrai qu'on fait les choses, enfin, genre, c'est pas vrai qu'un jour tu t'occupes du, enfin, tu t'intéresses au jardinage et le lendemain tu veux être chocolatière, enfin, et que ça n'a pas de sens. En fait, si vraiment c'était le cas, il y aurait certainement un sens. Et tu vois, c'est pour ça que moi j'ai toujours veillé à chercher ce sens, parce que c'était un vrai, j'ai vraiment pris ça comme un handicap très longtemps de passer presque des fois du coq à l'âne. Mais je me suis toujours obligée de faire ce travail de voilà, pourquoi je fais ce changement-là, quelle est l'intention derrière, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Et tu vois, quand je faisais encore des process de recrutement pour être salarié à l'époque, on m'a toujours trouvé mon CV très cohérent. Même si tu n'as pas le contexte, il n'est pas cohérent, tu vois, sur certains trucs. Mais j'ai toujours trouvé une façon de le rendre cohérent. Et je pense que c'est pareil pour. Je pense que ce sera le message de la fin, c'est important pour pas mal de gens de l'entendre. Et peut-être notre nous d'avant aussi, c'est que, en fait, l'important, c'est de passer à l'action. Et derrière, en fait, il y a toujours quelque chose il y aura toujours un lien à faire avec peut-être le positionnement d'avant, ou l'offre d'avant, ou le client idéal d'avant. Parce que c'est, voilà, c'est pas complètement, comment dire, déconnant, on va dire ça, hein. Il y a toujours ce lien. On trouvera toujours une façon de mettre, comment dire, je galère à parler là, il va falloir qu'on s'arrête, mais il y a toujours une façon de trouver de la cohérence dans ce qu'on fait, même dans un pivot, hein, de business ou autre. Mais l'important, c'est vraiment de le faire plutôt que de penser à le faire avec sens, avec cohérence, avec perfection, parce que ça peut vraiment, vraiment durer très longtemps. Et quand je dis très longtemps, on peut facilement se prendre 6 mois, 1 an dans la vue. Moi, je le vois avec des clientes. Et comme je disais un jour, je crois que c'était dans un email, il n'y a pas, quand on, tu sais, souvent, on a cette impression qu'il y a des gens qui sont plus inspirants ou plus précurseurs ou pionniers sur un sujet. Moi, je pense vraiment, alors je fais un gros raccourci, mais je pense que c'est pas une question qu'il y a des gens qui sont nés pour être pionniers, tu vois, sur un sujet. Il y a juste des gens qui passent plus à l'action, plus vite, quand ils ont quelque chose en tête. Et du coup, bah, ils chopent la vague et 2, 3 ans plus tard, ils sont précurseurs sur le sujet. Mais en vérité, peut-être que toi, tu pensais à la même chose à ce même moment et t'as juste passé ton temps à réfléchir à ce truc quand l'autre a fait le truc. Voilà. C'était deep, ça.
Je me suis pris la vague là, c'est bon.
Bon, bah sur ce, on va s'arrêter là, Chloé. Je suis super contente qu'on ait eu cet échange toutes les deux. Est-ce que, comme d'hab, moi je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont vouloir te suivre s'ils ne te connaissent pas déjà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux nous faire la com de quelque chose en ce moment? Qu'est-ce que tu veux nous partager sur ce mot de la fin?
Bah, simplement me rejoindre sur Insta si ça vous a parlé ce que je vous ai raconté. Et puis j'ai un podcast aussi, New Dampire, où je raconte des trucs plutôt cool, un peu dans la même ambiance qu'ici. Promis, c'est bonne ambiance. Donc voilà, c'est les deux endroits où vous pouvez me retrouver.
D'ailleurs, on avait fait un épisode en commun sur ton
Exactement.
podcast où il y a toujours autant d'éclats de rire. Donc, ne serait-ce que la prochaine step, c'est d'aller écouter cet épisode-là sur le
Très
podcast
bonne
de
idée. Voilà,
Chloé.
très bon CPA. Voilà, parfait.
Voilà. Et ensuite, aller découvrir le compte Insta et la future chaîne YouTube de Chloé sans presse, aucune pression, vraiment pas.
Non, mais ça, c'est mon
Bon.
truc. J'annonce des trucs et puis je les fais 2 ans plus tard. Donc voilà, faut être
Mais c'est
patient.
pour ça qu'en fait tu l'as pas vu, mais on vient de s'engager publiquement vers cette chaîne YouTube. C'est le pire truc. On ne peut plus reculer. Tu es
Allez, c'est pas
tombé dans
grave,
le
on
piège du manifesteur.
On assume, c'est pas grave.
Bon, bah encore merci
Bah,
Chloé. Et
merci
puis
à
je te
toi.
souhaite une belle continuation. Je te dis à très vite.
Merci, à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si toi aussi tu veux participer à ce mouvement de paix doux et progressif que je souhaite créer en continuant de se changer soi et non les autres, eh bien n'hésite pas à partager cet épisode ou ce podcast tout autour de toi, t'y abonner et pourquoi pas laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. En tout cas, on se retrouve très vite sur le podcast I Am and Coaching.